Vous écoutez RFI les midis à Paris, 11h en temps universel. Et tout de suite, c'est le journal avec Karine Bellicha. Bonjour Karine.
Bonjour, bonjour à tous. À la une de l'actualité, la visite d'Emmanuel Macron à Rabat. Le président français est au Maroc pour une visite d'État de 3 jours. 3 jours pour effacer 3 ans de brouille entre les deux pays. Le premier procès de Gérard Depardieu pour agression sexuelle pourrait être reporté. Suivant l'avis de ses médecins, l'acteur français ne se présentera pas au tribunal cet après-midi. Et puis l'opposition en Géorgie n'entend pas reconnaître les résultats des législatives hier. Les pro-européens compteront leurs forces dans les rues de Tbilissi cet après-midi, après un scrutin officiellement remporté par le parti au pouvoir favorable à Moscou. Tourner la crise la page de la crise des visas, du scandale de l'espionnage marocain ou de la priorité de Paris donnée à l'Algérie. Après 3 ans de froid polaire, la France et le Maroc scellent leur réconciliation. Emmanuel Macron débute une visite d'État de 3 jours avec le président français, 9 ministres et une quarantaine de grands patrons. Le Maroc est la première destination des investissements français en Afrique. D'importants contrats pourraient être signés lors de cette visite à Casa. Mathias Reynal.
Alstom, Airbus, Engie, des champions de l'industrie française font partie de la délégation, des entreprises qui espèrent profiter du réchauffement des relations diplomatiques et de cette période de grands investissements qui s'ouvre pour le Maroc. Le Royaume doit en effet accueillir de grands événements internationaux dans un futur proche, la Cannes 2025, la Coupe du Monde 2030. La compagnie nationale, la Royal Air Maroc, prévoit ainsi d'acheter des avions pour agrandir sa flotte et pourrait se tourner vers Airbus, qui souhaite aussi vendre des hélicoptères de transport tactique Caracal. Dans le domaine militaire, justement, la visite du président français au Maroc a également relancé les ambitions de Naval Group. Le constructeur souhaiterait conclure un accord pour la vente de 2 sous-marins et la construction d'une sous-marinade. Dans le secteur ferroviaire, Alstom est en lice avec d'autres multinationales pour décrocher le marché portant sur la fourniture de 168 trains, un contrat à 1,5 milliard d'euros. Il faut noter que le froid entre Paris et Rabat n'avait pas mis fin aux relations économiques. Loin de là, les échanges commerciaux entre la France et le Maroc ont atteint le record de 14 milliards d'euros l'an passé. Mathias Reynal, Casablanca, RFI.
Il assurait vouloir s'expliquer. Gérard Depardieu sera absent cet après-midi au tribunal de Paris à l'ouverture de son premier procès. Visé par de nombreuses accusations de violences sexuelles, l'acteur français doit cette fois-ci être jugé pour agression sexuelle sur 2 femmes lors du tournage des Volets Verts en 2021. Selon son avocat, les médecins de Gérard Depardieu, âgé de 75 ans, lui interdisent de se rendre au tribunal aujourd'hui. Le procès pourrait être reporté. Au-delà de cette affaire, est-ce que les choses ont changé depuis le début de MeToo en France? L'écoute a progressé, la parole des victimes est davantage prise en compte. Et pourtant, sur les plateaux de tournage ou dans les salles de spectacle, l'omerta continue, les agressions aussi. À Évreux, à la pointe du combat, les comédiennes et membres du collectif MeToo Théâtre répètent leur spectacle, les histrioniques, reportage de Lou Ecal.
Ça, c'est quand on est déjà là.
D'accord.
Sur la scène faiblement éclairée, les comédiennes répètent, texte en main.
Tu te dis que tout ça te donne envie de hurler, de tout cramer.
Louise Bzejowska-Dudek, l'une des comédiennes, porte un t-shirt large sur lequel est dessiné un grand requin blanc, la mâchoire ouverte. La pièce s'appelle « Les histrioniques », un titre mystérieux que la jeune femme explique.
Alors, histrionique, c'est un terme qui est utilisé en psychiatrie et dans les expertises psychiatriques plus précisément pour stigmatiser les victimes de viol.
Car c'est bien ce que raconte la pièce, le viol d'une comédienne qui se tourne vers les membres du collectif MeToo Théâtre pour leur demander de lui venir en aide.
Elle est partie chercher ses affaires, il l'avait rejointe dans les loges en bas. Sans rien dire, il avait fondu sur elle.
Donc on a décidé d'écrire, de mettre en scène, de jouer tout ensemble.
Sephora Eman, l'une des comédiennes.
On joue, nous, et on raconte une affaire de violence dans le milieu du théâtre qu'on suit, qui est, on peut dire, une affaire type.
Cette pièce, c'est aussi l'histoire de femmes qui luttent ensemble contre les violences sexistes et sexuelles. Avec les histrioniques, Marie Coquille-Chambel fait ses premiers pas sur les planches. Cette doctorante en études théâtrales est l'une des figures du mouvement MeToo Théâtre.
Au départ, le MeToo Théâtre, c'était vraiment pour visibiliser aussi des affaires qui, dans le milieu, ne se partageaient pas. Et au fur et à mesure, on a commencé à faire de l'accompagnement de victimes. On a prévenu des structures de faits de violence commis par leurs employés, etc. Donc en fait, ça a pris une tournure beaucoup plus large que juste la simple visibilisation qu'on voulait faire au début.
MeToo Théâtre fête ses 3 ans cette année. Il y a eu le hashtag, de nombreuses révélations, un livre, des mises en examen. Mais selon ces femmes, le combat n'est pas terminé.
Ça ne faiblit pas, on reçoit des témoignages d'il y a 30 ans autant que des témoignages d'il y a 2 ans ou d'il y a 2 semaines.
Sephora Eman a tout de même de l'espoir. Dans les écoles, la jeune génération fait peu à peu bouger les choses.
Les élèves sont plus du tout en mesure d'accepter des rapports de violence dans le travail. Ils et elles se fédèrent pour passer des informations sur des profs ou des formateurs qui seraient problématiques.
Désormais, les formations sont obligatoires dans les structures culturelles. Il doit aussi y avoir des référents et partout, des brochures et guides d'informations sur ces violences.
C'est bien d'avoir des fascicules, la formation elle est essentielle. Maintenant, concrètement, tant que la loi n'évolue pas, tant que les condamnations n'évoluent pas, tant que la culture du viol est toujours à l'œuvre, en fait, les choses n'avanceront pas.
Bon, les filles, on reprend. Les filles, j'ai une nouvelle info.
Oui, mais c'est quoi? Elle doit partir sur quoi?
Mais pourquoi vous êtes
pas sur quoi? Tu peux redire les dernières phrases.
À l'Assemblée, les députés entament cet après-midi l'examen du budget de la Sécu. Plus de 2000 amendements ont été déposés pour le projet de loi de finances de la Sécurité sociale. Bercy envisage de moins bien rémunérer les arrêts maladie des fonctionnaires pour faire 1 milliard d'économies. La gauche est vent debout. L'autre passe d'armes attendue concerne les retraites. L'examen du budget de l'État, lui, s'est achevé samedi soir. Les députés ne sont pas venus à bout de la partie recettes. Les débats reprendront le 5 novembre. Le gouvernement a déjà annoncé son intention de réduire les dépenses de 40 milliards d'euros, dont la moitié à la seule charge de l'État. 15 milliards étaient déjà fléchés. Reste donc 5 milliards de coupes à trouver. Hier, le ministère du Budget a fait la liste des victimes de l'austérité. On en parle avec vous, Nathanaël Vitran, bonjour.
Bonjour à tous.
L'aide au développement est à nouveau mise à contribution.
Oui, 640 millions d'euros de baisse ciblée qui viennent s'ajouter à une baisse déjà annoncée de plus de 20% sur le budget 2025 par rapport au montant voté l'an dernier. Au total, le budget de l'aide au développement se retrouve amputé de quasiment 2 milliards d'euros. C'est considérable. Jean-François Corti, président de l'association Médecins du Monde, est dépité.
On pense à beaucoup de nos collègues, beaucoup d'associations qui dépendent de fonds liés, on va dire, à l'État français et qui vont être en difficulté du fait de cette baisse. C'est une forme de désolation sur le renoncement à soutenir l'aide publique au développement dans un contexte mondial où il y a un empilement de crises et d'inégalités qui s'accentuent.
Sur France Culture ce matin, Rémi Rioux, directeur général de l'AFD, expliquait lui à quoi il faudrait sans doute renoncer.
Quand on va dans les territoires à l'intérieur d'un pays qui sont les plus défavorisés, c'est là que vous avez besoin de ressources budgétaires que nous vote le budget de l'État. Pour faire des choses difficiles, où il y a un grand impact pour le développement et pour le climat, et qui d'ailleurs nous rend encore plus amicaux avec le reste du monde, on a besoin de ça.
Et dès la semaine dernière, une centaine d'ONG du secteur de la solidarité internationale avaient signé une lettre ouverte adressée au président de la République, lui demandant de défendre l'aide publique au développement. Des associations qui déplorent un autre renoncement. Désormais, les taxes sur les transactions financières et les billets d'avion ne serviront plus à financer directement l'aide au développement. Jean-François Corti.
Cette loi est toujours en activité, qui permet certes une contribution, on va dire, à la solidarité internationale, mais qui aussi fait le lien symbolique entre les enjeux de la mondialisation et ses pratiques de taxation.
Alors un choix économique, mais donc un symbole qui est aussi politique.
Nathalie Vitran du service économie de RFI. Pas question de reconnaître les résultats officiels du scrutin en Géorgie. Le parti au pouvoir, le Rêve géorgien, revendique la victoire aux législatives avec 54% des voix. Pour l'opposition pro-européenne, les élections ont été volées. Une manifestation se tiendra cet après-midi à Tbilissi. Le Kremlin nie toute ingérence dans le scrutin. Au Proche-Orient, Israël a mené de nouvelles frappes meurtrières au Liban. 5 personnes ont été tuées dans un bombardement dans la ville côtière de Tyr, dans le sud du pays. Et puis J-8 aux États-Unis, les candidats continuent à labourer les états clés, ceux qui peuvent faire basculer l'élection présidentielle. Kamala Harris ira dans le Michigan, Donald Trump en Géorgie. Voilà, c'est la fin de ce journal. Le grand reportage à suivre, du rêve au cauchemar quand les Éthiopiens tentent le tout pour le tout en Arabie Saoudite. Il est presque 9:10 ici à Paris, 15:10 à Tbilissi. À très bientôt sur l'antenne de RFI.